Chapitre 3e. Le premier bal d'une jeune fille est toujours pour elle une grosse affaire. Elle s'imagine volontiers que ce sera une date mémorable dans sa vie, et que le quelque chose qui sûrement arrivera ce soir décidera de son avenir. Qu'au son de l'orchestre, le prince charmant qu'attend toujours, sans même s'en bien rendre compte, toute jeune fille qui entre dans la vie, lui apparaîtra entourée d'une auréole mystérieuse. Et après ce premier bal, comme d'ordinaire il ne s'y passe rien du tout de romanesque, et qu'aucune auréole dorée n'a entouré une tête brune ou blonde, il en résulte pour la jeune fille une vague désillusion. Mais Aline n'en était encore qu'aux espérances et à l'attente. Elle n'avait pas été élevée comme la plupart des jeunes filles qui, bien avant l'âge, entrevoient ce monde où plus tard elles doivent figurer, qui, sous prétexte de bal blanc, dansent à 15 ans et entendent force propos peu faits pour des oreilles si jeunes. Aussi connut-elle toutes les émotions d'une vraie débutante. Pendant tout le commencement du bal, pendant que Madame Bardière présentait sa fille aux amis qui entraient, Aline était aux aguets. Julien ne venait pas, et comment pouvait-elle s'amuser sans lui? Le jeune marin n'habitait pas chez son père. Parfois 2 ou 3 jours se passaient sans qu'on le vît rue du Bac. C'était Aline qui s'en plaignait le plus. Julien se contentait de sourire, flatté au fond des reproches de la petite sœur. Enfin Aline, au beau milieu d'une présentation, s'élança brusquement vers la porte. Julien entrait. Il était en uniforme et elle le trouvait très beau. Elle l'entraîna, le grondant, riant, si heureuse de le revoir qu'elle ne faisait plus du tout attention aux autres et ne voyait pas que sa mère, courroucée de ce manque de tenue, cherchait à excuser sa fille auprès de la personne à qui elle n'avait eu que le temps de le présenter à demi. « Comment me trouves-tu ? » « C'est de rigueur, la robe blanche du premier bal, n'est-ce pas ? Et la coiffure ? Maman voulait tout blanc, rien que du blanc. Mais je ne suis pas assez jolie pour cela. J'ai tenu à un brin de couleur. Tu vois cette guirlande de rose sur la jupe ? C'est joli, hein ? Mais les hommes ne savent pas apprécier ces choses-là. Ils ne se doutent pas du mal qu'on se donne pour se faire belle. » Elle babillait, en vraie petite fille qu'elle était encore, qui se dédommageait auprès du frère, de la contrainte que sa sauvagerie lui imposait auprès des autres. Julien, souriant, l'examina enfin critique. Elle l'avait entraîné dans un boudoir où il n'y avait personne et où la lumière, plus douce, tombait sur des masses de roses, rien que des roses. C'était la première fois que le marin voyait la jeune fille en toilette de bal, et pour la première fois aussi, il sentit qu'Aline n'était pas sa sœur, chose dont elle n'avait pas l'air de se douter le moins du monde. Elle cherchait avidement dans les yeux du jeune homme un signe d'approbation qui l'eût rendue heureuse pour toute la soirée et se tenait debout devant lui en donnant de petites tapes à sa jupe de tulle et aux roses de la guirlande. « Très bien, d'un goût parfait. Tu es tout à fait jolie comme cela, mais on a dû te le dire déjà. »« Mais non. D'abord les autres, ça m'est égal. Moi, je n'aime que mon grand frère, un méchant, un vilain, qui me vole des journées entières. Et pourquoi, je vous le demande un peu ?» Puis subitement, elle s'écria, en le forçant à s'asseoir auprès d'elle. « Julien, tu as quelque chose. On ne me trompe pas, moi. Tu as un chagrin, et tu ne peux pas me le confier. Si tu crois que j'accepte les excuses qui paraissent toutes simples à maman, pourquoi es-tu si changé? Pourquoi ne faisons-nous pas de belles parties? Pourquoi ne bavardons-nous pas ensemble comme il y a 2 ans? Tout cela, ce n'est pas naturel, vois-tu. Si j'avais un secret, je te le dirais. Je ne le dirais même qu'à toi. Tu en as un. Oh, je m'y connais. Et tu ne veux pas me le confier. » « Bah, j'en ai pleuré plus d'une fois depuis ton retour, la nuit, quand on me croyait endormi. Il me semblait que j'avais perdu mon grand frère, que j'aime, et dont j'ai plus besoin que jamais. Souviens-toi du temps où tu me disais tout, ou quand tu avais quelques gros méfaits sur la conscience. Des mauvaises places au collège, ou des vêtements déchirés. Les déchirais-tu assez, tes tuniques ? C'était à moi que tu confiais ces terribles secrets, c'était moi qui en parlais à maman. » « Eh bien, fais cela encore, mon Julien. Est-ce que je ne suis plus ta sœur ?»« Mais Aline, » dit le jeune homme avec une nuance d'embarras et d'une voix toute changée, « c'est que nous ne sommes nullement frères et sœurs. » Elle se mit à rire franchement. « En voilà une idée, par exemple. Et depuis quand, je te prie? Depuis que tu as des favoris et un bel uniforme? Et depuis que je porte une robe de bal et des souliers en satin? Ça, c'est une défaite. Tu as un chagrin. » « Eh bien oui, j'ai un chagrin. » C'est-à-dire que je suis furieux contre moi, que je me méprise. Ah, fit la jeune fille de son air innocent et naïf et secouant gentiment la tête. Tu as tiré une bordée. Tu dis ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai entendu ton père le dire à maman. Je suppose que tu auras fait des dettes. Eh bien, mais tu devinais juste, sœurette. J'ai joué, moi qui m'étais si bien juré de ne jamais toucher aux cartes. Écoute, je vais tout te dire comme par le passé. Et le fait est que j'ai besoin de me confier à quelqu'un. Mon secret m'étouffe. J'ai joué sur parole, ou plutôt un de mes amis m'a prêté de l'argent. Je crois être sûr de pouvoir le payer en liquidant ce qui me restait de la petite fortune de ma mère. C'est à quoi je me suis occupé depuis mon retour. Mais à mon dernier voyage, j'avais fait quelques placements qui devaient doubler mon avoir. Les placements se sont trouvés désastreux. Je n'ai plus le sou, et il faut pourtant que je paye cette dette, une dette d'honneur. Et cela de suite, ou du moins avant que mon camarade ne quitte Paris. Ah, quand on est gueux, on ne devrait jamais se permettre d'avoir des amis riches. Quand je sortirai de cette affaire, si j'en sors, je jure bien de me contenter de ma solde. Vois-tu, je sentais de l'argent derrière moi et je me laissais aller. C'est ce qui m'a perdu. Maintenant que je n'ai plus le sou, je marche à droite, je t'en réponds. Julien, tu sais, j'ai des économies. Je ne dépensais pas grand-chose à la pension. J'ai bien 250 francs, prends-les. Ma gentille Aline, s'écria le jeune homme l'embrassant franchement, moitié riant, moitié ému, garde tes petits sous, ils ne changent rien à la situation. Ce ne sont pas des centaines de francs, mais bien des milliers qu'il me faudrait. Je vais être obligé de m'adresser à mon père, moi qui jusqu'à présent ai fait le fier, et ce n'est pas drôle, bah. C'est plus grave que les tuniques déchirées. C'est égal, laisse-moi en parler à maman. Je te le défends, entends-tu ? Ta mère ne peut rien avoir à faire avec mes dettes. Elle n'est pas ma mère à moi. Bon, elle t'aime plus que moi, et je n'en suis même pas jalouse. Madame Bardière entra. Aline, tu te conduis d'une façon bien étrange, vraiment. C'est pour toi que je donne un bal, et tu te sauves dans un coin, laissant tes danseurs qui ne savent où te trouver. Viens. Oui, maman. Mais Julien et moi, nous avons tant de choses à nous dire. Nous nous voyons si peu. Fais-moi faire un tour de valse, veux-tu, Julien ? Tu me diras si j'ai fait des progrès. Puis ça m'entraînera, et je n'aurai plus peur avec les autres. On les regarda beaucoup, ces deux jeunes gens qui causaient encore, tout en valsant. La figure accentuée du marin, ferme et belle, ses cheveux très noirs, formaient un contraste frappant avec la figure blonde de sa gracieuse danseuse. Le bal des Bardières fut des plus réussis. On trouvait la fille de la maison très gentille, et plusieurs des femmes qui lui disaient des choses aimables songeaient un fils ou un frère, dont elle et sa fortune feraient bien l'affaire. Mais l'admiration était surtout pour la mère d'Aline. Elle semblait la réalisation de la femme, dans ce qu'elle a de plus majestueux, de plus digne de vénération. On ne se sentait pas, en sa présence, tout à fait à l'aise, peut-être. Sa réserve, un peu froide, appelait la réserve chez les autres. Mais on se sentait honoré par un mot, un sourire, un regard. On disait, en la voyant passer, « Elle a comme une auréole d'honnêteté parfaite. Quelle maison que la sienne ! Comme on sent que tout y est plein de dignité, d'harmonie. Comme on sent aussi l'union parfaite entre ces deux époux. On dit que toute maison a son secret, qu'il s'y trouve toujours un squelette au fond d'une armoire. En voilà une toutefois dont les murs pourraient être en verre. » Madame Bardière savait très bien l'impression qu'elle produisait. Elle s'efforçait chaque jour de la fortifier. Aline, après quelque temps, sentit sa timidité se fondre. On la recherchait, on la complimentait. Elle se laissait aller au plaisir de se savoir jeune et jolie. Elle s'amusait le plus franchement du monde. Dès que le bal fut bien en train, Julien prit son père à part et lui exposa sa situation. Il lui fallait 18 000 francs. Le docteur écouta le récit de son fils sans sourciller. Il aimait ce fils plus que tout au monde et il souffrait en devinant, à la voix rauque et aux paroles saccadées de Julien, ce que coûtait au jeune homme cette pénible confession. Lorsqu'elle fut finie, il y eut un petit silence. « Mon pauvre Julien, c'est que je n'ai pas cet argent. » Julien le regarda stupéfait. « Avec ta situation, tu n'as pas 18 000 francs d'économie, ce n'est pas possible. »« Ce n'est pas seulement possible, c'est la pure vérité. » « Écoute, j'avais des dettes quand je suis venu à Paris. J'étais des années sans rien gagner ou presque rien. On croyait ma femme très riche. Voici en quoi consistait cette richesse. Son premier mari l'avait reconnu par contrat de mariage 200 000 francs. Toute la fortune, en dehors de cette somme, allait à sa fille et jusqu'à sa majorité ou son mariage. Il ne lui est attribué qu'une petite partie de ses revenus pour son éducation. Le reste fait la boule de neige. Ah, tout était bien rigoureusement stipulé, je t'assure. Or, j'étais convaincu que je finirais par me créer à Paris une situation exceptionnelle. J'étais très ambitieux et, pendant toute ma jeunesse, j'avais été relégué dans un coin de montagne. Je savais aussi que je ne réussirais jamais qu'en payant d'audace. Ma femme a eu confiance en moi. Nous nous sommes installés comme des gens riches qui n'avaient pas à compter. Les 200 000 francs ont été mangés jusqu'au dernier sou, et j'avais fait de nouvelles dettes. La Vogue est venue juste à temps pour nous sauver d'un désastre. J'ai gagné l'an dernier 70 000 francs. Nous avons ce mois-ci payé nos derniers arriérés. Je gagnerai cette année 100 000 francs, je pense. Mais nous ne possédons rien. Rien, entends-tu? Notre cuisinier est bien plus riche que nous. Alors je n'ai plus qu'à donner ma démission et à me brûler la cervelle. Je ne demanderai pas mieux que de te voir donner ta démission et vivre à Paris. Quant à brûler une cervelle qui m'appartient bien un peu, je m'y oppose. Tu plaisantes, père? Je ne plaisante pas, moi. Je suis dans une impasse sans issue. Il en est une, cependant. Laquelle? Le docteur Bardière, qui pourtant était à nos mardis, hésita un instant. Puis il dit tranquillement, comme s'il se fût agi d'une chose toute simple, « Je t'ai dit que nous n'avons pas le sou, et c'est vrai. Mais je t'ai dit aussi que toute la fortune de M. Chabriat revient à sa fille, qui sera fort riche, épouse Aline. » Julien bondit, il était devenu tout pâle. Au bout d'un instant, il dit d'une voix rauque, « Aline est ma sœur. » « Comment cela ? » Un veuf et une veuve s'épousent. Chacun a un enfant du premier mariage. Quelle parenté y a-t-il entre ces deux enfants ? Aucune. S'il n'y a pas de lien de sang, il y a les liens d'une longue habitude. Nous avons grandi côte à côte, comme grandissent les enfants d'une même famille. Ce serait un inceste. Bon, des mots que tout cela. Du reste, es-tu si sûr que cela de considérer Aline comme ta sœur ? Je vous observais tantôt danser ensemble. Tu la regardais avec une admiration un peu déguisée. Pendant ces deux dernières années, l'enfant est devenu jeune fille. Tu n'as pas retrouvé tout à fait ta sœurette, avoue-le. Quant à elle, tu sais bien que tu as toujours été son adoration. Ce serait chose facile de changer cette adoration de petite fille en adoration de femme. Réfléchis. Mais épouser cette adorable fille parce qu'elle est riche. Tu l'épouseras parce que tu l'aimeras. La fortune sera par-dessus le marché. Julien croyait rêver. Il se trouvait avec son père dans ce même boudoir où 2 heures auparavant il avait causé avec sa sœur. Les roses, un peu fanées, jetaient une odeur capiteuse dans ce joli réduit et lui semblait revoir la jeune fille dans sa toilette vaporeuse, lui souriant, guettant son approbation. On jouait une valse et les sons de l'orchestre arrivaient jusqu'à lui avec une douceur caressante. Il alla s'appuyer au montant de la porte et chercha du regard, dans la salle du bal, jusqu'à ce qu'il aperçût Aline. Elle riait, ne semblait plus timide du tout. Elle valsait avec un jeune homme fort élégant qui, sans doute, lui faisait la cour. On lui ferait la cour de plus en plus à cette jolie fille, très riche, et un curieux sentiment de jalousie le mordit au cœur. Son père avait-il raison? Était-il sur le point de devenir amoureux? 2 ans d'absence les avaient changés tous deux. Julien trouva qu'Aline riait un peu trop gaiement. Que pouvait-il bien lui dire, ce fat? Décidément, elle était bien gentille, sa sœurette. Et à ce mot familier, il tressaillit. Il lui semblait faire une chose honteuse et inavouable, en regardant ainsi, même de loin, la petite Aline. La jeune fille l'aperçut tout d'un coup et lui jeta un regard joyeux et tendre. « Eh bien, que décides-tu ? » lui dit son père qui le rejoignit. « Comment veux-tu que je te réponde ainsi, sans réfléchir, sans me consulter, sans avoir l'occasion de sonder les sentiments de cet enfant ? N'y aurait-il pas quelque autre moyen ? Tu as des amis à qui tu pourrais t'adresser. J'ai des connaissances, je n'ai pas un ami. Du reste, si l'on savait que j'en suis réduit à emprunter une misérable somme, ça serait crier ma situation sur les toits, la chose est impossible. » La valse finissait, et Aline quittait son danseur sans lui permettre de la reconduire. Toute rose et souriante, elle s'avançait vers Julien. « Tu ne m'as fait danser qu'une fois, c'est pas gentil cela. Est-ce qu'un frère et une sœur dansent ensemble ? Puisque tu m'as dit tantôt que nous n'étions pas frères et sœurs. » Elle disait cela en riant, innocemment, parce qu'elle avait envie de danser avec lui. Le docteur regarda son fils bien dans les yeux. Aline attendait toujours, ne comprenant rien à la pâleur du marin. « Tu n'es pas bien, Julien ? » ?»« Si, ma mignonne, je viens. Tu feras des infidélités à tous tes danseurs. Je veux t'accaparer. je ne danserai plus qu'avec toi, car vois-tu, il n'y en a pas une seule ici qui soit aussi fraîche, aussi charmante, aussi jolie que toi. » Aline, saisie, le regardait, tout interdite, heureuse pourtant et rougissante, sans bien savoir pourquoi elle rougissait. Julien l'entraîna, et en se retournant, il jeta un regard à son père,